aux couleurs du drapeau de l'Ukraine, a porté la croix tout au long du témoignage de la douleur de deux jeunes, l'un ukrainien, l'autre russe. En 2022, François qui avait fait porter...
Radio G. 101.5 FM.
Aujourd'hui, nous allons retrouver Lalla, personnage du roman de Jean-Marie Le Clézio, Désert. Ce qui est bien aussi, ce sont les guêpes. Elles sont partout dans la ville, avec leur long corps jaune rayé de noir et leurs ailes transparentes. Elles vont partout en volant lourdement, sans s'occuper des hommes. Elles cherchent leur nourriture. Lalla les aime bien. Elle les regarde souvent, suspendues dans les rayons de soleil, au-dessus des tas d'ordures ou bien autour des étals de viande, à la boucherie. Quelquefois, elle s'approche de Lalla quand elle mange une orange. Elle cherche à se poser sur sa figure, sur ses mains. Quelquefois aussi, l'une d'elles la pique au cou ou sur le bras. Et ça fait une brûlure qui dure plusieurs heures. Mais ça ne fait rien. Lalla aime bien les guêpes, quand même. Les mouches sont moins bien. D'abord, elles n'ont pas ce long corps jaune et noir, ni cette taille si fine quand elles sont posées sur le bord d'une table. Les mouches vont vite. Elles se posent d'un seul coup, toutes plates, avec leurs gros yeux gris-rouges et écarquillés sur leur tête. Dans la cité, il y a toujours beaucoup de fumée qui traîne au-dessus des cabanes de planches, le long des ruelles de terre battue. Il y a des femmes qui font cuire le repas sur les braseros de terre. Il y a les feux qui brûlent les ordures, les feux pour faire chauffer le goudron pour enduire les toits. Quand elle a le temps, Lalla aime bien s'arrêter pour regarder les feux. Ou bien elle va vers les torrents asséchés pour ramasser des brindilles d'acacia. Elle les lie avec une ficelle et elle rapporte le fagot à la maison d'Amma. Les flammes bondissent joyeusement dans les brindilles, font éclater les tiges et les épines, font bouillir la sève. Les flammes dansent dans l'air froid du matin en faisant une belle musique. Si on regarde à l'intérieur des flammes, on peut voir les génies. Enfin, c'est Amma qui dit cela. On peut voir aussi des paysages, des villes, des rivières, toutes sortes de choses extraordinaires qui apparaissent. et se cache, un peu comme les nuages. Ensuite, les guêpes arrivent parce qu'elles ont senti l'odeur de la viande de mouton en train de cuire dans la marmite en fer. Les autres enfants ont peur aussi des guêpes. Ils veulent les chasser. Ils cherchent à les tuer à coups de pierre. Mais Lala les laisse voler autour de ses cheveux. Elle essaie de comprendre ce qu'elles chantonnent en faisant vrombir leurs ailes. Quand l'heure du repas arrive, le soleil est haut dans le ciel. Il brûle fort. Le blanc est si blanc qu'on ne peut pas le regarder en face. Les ombres si noires qu'elles semblent des trous dans la terre. Alors viennent d'abord les fils d'Amma. Ils sont deux. L'un de 14 ans nommé Ali, l'autre de 17 qu'on appelle Bareki parce qu'il a été béni le jour de sa naissance. C'est eux qu'Amma sert en premier. Et ils mangent vite, gloutonnent sans parler. Ils chassent toujours les guêpes en mangeant avec des revers de main. Ensuite vient le mari d'Amma, qui travaille sur les plantations de tomates, au sud. Il s'appelle Selim, mais on l'appelle le Soussi, parce qu'il vient de la région du fleuve, Sousse. Il est tout petit et maigre, avec de beaux yeux verts, et Lala l'aime bien. Quoi qu'on dise un peu partout que c'est un paresseux. Mais il ne tue pas les guêpes, au contraire. Il les prend parfois entre le pouce et l'index et il s'amuse à faire sortir leurs dards, puis il les repose délicatement par terre et il les laisse s'envoler. Il y a toujours des gens qui viennent d'ailleurs, et Amma met un morceau de viande de côté pour cela. Quelquefois, c'est Naman, le pêcheur, qui vient manger dans la maison d'Amma. Lala est toujours bien contente quand elle sait qu'il va venir, parce que Naman l'aime aussi et lui raconte de belles histoires. Il mange lentement et de temps en temps, il dit quelque chose de drôle pour elle. Il l'appelle petite Lala parce qu'elle est descendante d'une véritable shérifa. Quand elle regarde dans ses yeux, Lala a l'impression de voir la couleur de la mer, de traverser l'océan, d'être de l'autre côté de l'horizon, dans ces grandes villes où il y a des maisons blanches, des jardins, des fontaines. Lala aime bien entendre les noms des villes et elle demande souvent à Naman de les lui dire, comme cela, rien que les noms, lentement, pour avoir le temps de voir les choses qu'il cache. Algeciras, Granada, Sevilla, Madrid. Les garçons d'Amma veulent en savoir davantage. Ils attendent que le vieux Naman ait fini de manger et ils posent toutes sortes de questions sur la vie là-bas, de l'autre côté de la mer. Eux, ce sont des choses sérieuses qu'ils veulent savoir, pas des noms pour rêver. Ils demandent à Naman l'argent qu'on peut gagner, le travail, combien coûtent les habits, la nourriture, combien coûte une auto s'il y a beaucoup de cinéma. Le vieux Naman est trop vieux, il ne sait pas ces choses-là. Ou bien il les a oubliées, et puis de toute façon, la vie a dû changer depuis le temps où il vivait là-bas, avant la guerre. Alors les garçons haussent les épaules, mais ils ne disent rien, parce que Naman a un frère qui est resté à Marseille et qui peut leur être utile un jour. Certains jours, Naman a envie de parler de ce qu'il a vu et c'est à Lala qu'il le raconte, parce que c'est elle qu'il préfère et qu'elle ne pose pas de questions. Même si ça n'est pas tout à fait vrai, Lala aime ce qu'il raconte. Elle l'écoute attentivement quand il parle des grandes villes blanches au bord de la mer, avec toutes ces allées de palmiers, ces jardins qui vont jusqu'en haut des collines, pleins de fleurs, d'orangers, de grenadiers, et ces tours aussi hautes que des montagnes, ces avenues si longues qu'on n'en aperçoit pas la fin. Elle aime aussi quand il parle des autos noires qui roulent lentement, surtout la nuit, avec leurs phares allumés et les lumières de toutes les couleurs à la devanture des magasins, ou encore les grands bateaux blancs qui arrivent à Algeciras le soir, qui qui glissent lentement le long des quais mouillés, tandis que la foule crie et gesticule pour accueillir ceux qui arrivent. Ou bien le chemin de fer qui va vers le nord, de ville en ville, qui traverse les campagnes brumeuses, les fleuves, les montagnes, qui entrent dans de longs tunnels obscurs, comme cela, avec tous les passagers et leurs bagages, jusqu'à la grande ville de Paris. Lala écoute tout cela et elle frissonne un peu d'inquiétude. Et en même temps, elle pense qu'elle aimerait bien être dans ce chemin de fer, de ville en ville, vers les lieux inconnus, vers ces pays où l'on ne sait plus rien de la poussière et des chiens affamés, ni des cabanes de planches, où entre le vent du désert. « Emmène-moi là-bas quand tu partiras, » dit Lala. Le vieux Naman secoue la tête. « Je suis trop vieux maintenant, petite Lala, je n'irai plus maintenant, je mourrai en route. » Pour la consoler, il ajoute « Toi, tu iras dans toutes ces villes, et puis tu reviendras ici, comme moi. » Elle se contente de regarder dans les yeux de Naman pour voir ce qu'il a vu. Comme quand on regarde au fond de la mer, elle pense longtemps au bon nom des villes. Elle les chantonne dans sa tête, comme si c'était les paroles d'une chanson. Parfois, c'est Tama qui lui demande de parler de ces pays étrangers. Alors, il raconte encore une fois son voyage à travers l'Espagne, la frontière, puis la route au bord de la mer et la grande ville de Marseille. Il raconte toutes les maisons, les rues, les escaliers, les quais sans fin, les grues, les bateaux grands comme des maisons, grands comme des villes d'où l'on décharge des camions, des wagons, des pierres, du ciment, puis qui s'en vont sur l'eau noire du port en faisant résonner leurs sirènes. Les deux garçons n'écoutent pas trop cela, parce qu'ils ne croient pas le vieux Naman. Quand Naman s'en va, ils disent que tout le monde sait qu'il était cuisinier à Marseille, et pour se moquer de lui, ils l'appellent Taïb, parce que ça veut dire « il a fait la cuisine ». Mais Amma écoute ce qu'il dit. Ça lui est égal que Naman ait été cuisinier là-bas et pêcheur ici. Elle lui pose d'autres questions, à chaque fois pour entendre encore l'histoire du voyage, la frontière et la vie à Marseille. Alors Naman parle aussi des batailles dans les rues, quand les hommes attaquent les Arabes et les Juifs, dans les rues sombres, et qu'il faut se défendre à coups de couteau, ou bien jeter des pierres et courir le plus vite qu'on peut pour échapper aux camions de la police, qui ramassent les gens et les conduisent en prison. Il parle aussi de ceux qui franchissent les frontières en fraude, par les montagnes, en marchant la nuit, en se cachant le jour, dans les grottes et dans les broussailles. Mais quelquefois les chiens des policiers suivent leurs traces et les attaquent quand ils arrivent en bas, de l'autre côté de la frontière. Naman parle de tout cela avec un air sombre et Lala sent le froid qui passe dans les yeux du vieil homme. C'est une impression étrange qu'elle ne connaît pas bien, mais qui fait peur et menace, comme le passage de la mort, le malheur. Peut-être que c'est cela aussi que le vieux Naman a ramené de là-bas, de ces villes de l'autre côté de la mer. Quand il ne parle pas de ses voyages, le vieux Naman raconte les histoires qu'il a entendues autrefois. Il les raconte rien que pour Lala et pour les très jeunes enfants, parce qu'ils sont les seuls à écouter sans trop poser de questions. Certains jours, il est assis devant la mer, à l'ombre de son figuier, et il répare ses filets. C'est à ce moment-là qu'il raconte les plus belles histoires, celles qui se passent sur l'océan, sur les bateaux, dans les tempêtes, celles où les gens font naufrage et arrivent dans des îles inconnues. Naman est capable de raconter une histoire à propos de n'importe quelle chose. C'est cela qui est bien. Par exemple, Lala est assise à côté de lui, à l'ombre du figuier, et elle le regarde réparer ses filets. Ses grandes mains brunes, aux ongles cassés, vont vite, savent faire des nœuds avec légèreté. À un moment, il y a une grande déchirure dans les mailles du filet et Lala demande naturellement. C'est un gros poisson qui a fait cela. Au lieu de répondre, Naman réfléchit et dit. Je ne t'ai pas raconté le jour où nous avons pêché un requin, n'est-ce pas ? Lala secoue la tête et Naman commence une histoire. Comme dans la plupart des histoires, il y a une tempête avec des éclairs qui vont d'un bout à l'autre du ciel, des vagues hautes comme des montagnes, des trombes de pluie. Le filet est lourd, si lourd à remonter que le bateau penche sur les côtés et que les hommes ont peur de chavirer. Quand le filet arrive, il voit qu'il y a dedans un requin bleu gigantesque qui se débat et ouvre une mâchoire pleine de dents, terrible. Alors les pêcheurs doivent se battre contre le requin qui essaie d'emporter le filet. Il le frappe à coups de gaffe, à coups de hache, mais le requin mord le bord du bateau et le déchire comme si c'était du bois de caisse. Enfin, le capitaine parvient à assommer le requin avec un bâton et on hisse la bête sur le pont du bateau. Alors on lui a ouvert le ventre pour voir ce qu'il y avait dedans. Et on a trouvé une bague tout en or sur laquelle était montée une pierre précieuse, toute rouge, si belle que tout le monde ne pouvait pas en détacher son regard. Naturellement, chacun d'entre nous a voulu la bague pour lui, et bientôt tout le monde était prêt à s'entretuer pour la possession de cette maudite bague. Alors j'ai proposé qu'on la joue au dé, parce que le capitaine avait sur lui une paire de dés en os. Nous avons donc joué au dé sur le pont, malgré la tempête terrible qui menaçait à chaque instant de renverser le bateau. Nous étions 6, et nous avons joué 6 fois. À celui qui lancerait le chiffre le plus fort. Après le premier tour, il n'y avait plus que moi et le capitaine, car nous avions lancé 11 chacun, 6 et 5. Tout le monde se pressait autour de nous pour voir qui gagnerait. J'ai lancé et j'ai fait double 6. C'est moi qui ai donc reçu la bague, et pendant quelques instants, j'ai été heureux comme je n'avais jamais été de ma vie. Mais j'ai regardé la bague longtemps et sa pierre rouge brillait comme le feu de l'enfer avec une lumière mauvaise, rouge comme le sang. Alors j'ai vu aussi que les yeux de mes compagnons brillaient avec la même lueur mauvaise et j'ai compris que c'était une bague maudite comme celui qui l'avait portée et que le requin avait mangé. Et j'ai compris que celui qui la garderait serait maudit à son tour. Quand je l'ai eu bien regardé, je l'ai ôté de mon doigt et je l'ai jeté dans la mer. Le capitaine et mes compagnons étaient pleins de fureur et ils ont voulu me jeter à la mer, moi aussi. Alors je leur ai dit, pourquoi êtes-vous en colère contre moi ? Ce qui est venu de la mer est retourné à la mer et maintenant, c'est comme s'il n'y avait rien eu. À ce moment-là, la tempête s'est calmée d'un seul coup et le soleil s'est mis à briller sur la mer. Alors les marins se sont apaisés eux aussi et le capitaine lui-même, qui avait eu tant envie de cette bague, l'a oubliée d'un seul coup. Et il m'a dit que j'avais bien agi en la rejetant à la mer. Nous en avons fait autant avec le corps du requin. Et nous sommes rentrés au port pour réparer le filet. Tu crois vraiment que cette bague était maudite ? Demande Lala. Je ne sais pas si elle était maudite, dit Naman. Mais ce que je sais, c'est que si je ne l'avais pas rejetée à la mer, le jour même, un de mes compagnons m'aurait tué pour la voler. Et tout le monde aurait péri de cette façon, jusqu'au dernier. Ce sont les histoires que Lala aime bien entendre, comme cela, assise à côté du vieux pêcheur, en face de la mer, à l'ombre du figuier, quand le vent souffle et fait battre les feuilles. C'est un peu comme si elle entendait la voix de la mer, et les paroles de Naman pèsent sur ses paupières et font monter le sommeil dans son corps. Alors elle se lève dans le sable, la tête contre les racines du figuier, tandis que le pêcheur continuerait par les enfilets de cordes rouges, et que les guêpes vrombissent au-dessus des gouttes de sel.
Oui, Hartani ! Lala crie très fort dans le vent, tandis qu'elle approche des collines de cailloux et de ronces. Par ici, il y a toujours plus ou moins de lézards qui détalent entre les pierres. Quelquefois même des serpents qui s'esquivent en crissant. Il y a de grandes herbes qui coupent comme des couteaux, et beaucoup de ces palmiers nains avec lesquels on fait des paniers et des nattes. On entend les insectes siffler partout parce qu'il y a des sources d'eau minuscules entre les roches. Et de grands puits cachés dans les avennes où l'eau froide attend. Lala, en passant, jette des cailloux dans les crevasses et écoute le bruit qui résonne profondément dans l'ombre. Hartani ! Souvent, il se cache pour se moquer d'elle, simplement allongé par terre au pied d'un buisson d'épines. Il est toujours vêtu de sa longue robe de bure effilochée aux manches et aux bas, et d'un long linge blanc qu'il enroule autour de sa tête et de son cou. Il est long et mince comme une liane, avec de belles mains brunes aux ongles couleur d'ivoire et des pieds faits pour la course. Mais c'est son visage que Lala aime surtout, parce qu'il ne ressemble à personne de ceux qui vivent ici, à la cité. C'est un visage très mince et lisse, un front bombé et des sourcils très droits, et de grands yeux sombres couleur de métal. Ses cheveux sont courts, presque crépus, et il n'a ni moustache ni barbe. Mais il a l'air fort et sûr de lui, avec un regard qui va droit, qui vous scrute sans crainte. Et il sait rire quand il veut d'un rire sonore qui vous rend tout de suite heureux. Aujourd'hui, Lala le trouve facilement parce qu'il n'est pas caché. Il est simplement assis sur une grosse pierre et il regarde droit devant lui, dans la direction du troupeau de chèvres. Il ne bouge pas. Le vent fait flotter un peu sa robe brune sur son corps, agite le bout de son turban blanc. Lala marche vers lui sans l'appeler, parce qu'elle sait qu'il l'a entendu arriver. Le Hartani a l'oreille fine. Il peut entendre bondir un lièvre d'un bout à l'autre d'une colline. Et il montre à Lala les avions dans le ciel longtemps avant qu'elle ait perçu le bruit de leur moteur. Quand elle est tout près de lui, le Hartani se lève et il se retourne. Le soleil brille sur son visage noir. Il sourit et ses dents brillent aussi à la lumière. Bien qu'il soit plus jeune que Lala, il est aussi grand qu'elle. Il tient un petit couteau sans manche dans sa main gauche. « Que fais-tu avec ce couteau ?» demande Lala. Comme elle est fatiguée par tout le chemin qu'elle a fait, elle s'assoit sur le rocher. Lui reste debout devant elle, en équilibre sur une jambe. Puis d'un coup, il bondit en arrière et il se met à courir à travers la colline caillouteuse. Quelques instants plus tard, il ramène une poignée de roseaux qu'il a coupés dans les marécages. Il les montre à Lala en souriant. Il halète un peu comme un chien qui a couru trop vite. « C'est beau, » dit Lala, « c'est pour jouer de la musique ?» Elle ne demande pas cela vraiment, elle murmure les mots en faisant des gestes avec ses mains. Chaque fois qu'elle parle, le Hartani reste immobile et la regarde avec une attention sérieuse parce qu'il cherche à comprendre. Peut-être que Lala est la seule personne qu'il comprenne et qu'elle est la seule à le comprendre. Quand elle dit « musique », le Hartani saute sur place en écartant ses longs bras comme s'il allait danser. Il siffle entre ses doigts si fort que les chèvres et boucs tressaillent sur la pente de la colline. Puis il prend quelques roseaux coupés, il les assemble dans ses mains. Il souffle dedans et cela fait une drôle de musique un peu rauque, comme le cri des engoulevents dans la nuit. Une musique un peu triste, comme le chant des bergers chleux. Le Hartani joue un moment sans reprendre son souffle. Ensuite, il tend les roseaux à Lala et elle joue à son tour, tandis que le jeune berger s'arrête de bouger, avec une lumière de plaisir dans son regard sombre. Il s'amuse comme cela, souffler à tour de rôle dans les tubes de roseaux de longueurs différentes, et la musique triste semble sortir du paysage blanc de lumière, des trous des grottes souterraines, du ciel même où bouge le vent lent. De temps à autre, il s'arrête, à bout de souffle, et le jeune garçon éclate de son rire sonore, et Lala se met à rire elle aussi, sans savoir pourquoi. Ensuite, il marche à travers les champs de pierre, et le Hartani prend la main de Lala parce que C'est plein de rochers pointus qu'elle ne connaît pas entre les touffes de broussailles. Il saute par-dessus les petits murs de pierres sèches, il zigzague entre les buissons d'épines. Le Hartani montre à Lalla tout ce qu'il y a dans les champs de pierres et sur les pentes des collines. Il connaît les cachettes mieux que personne. Celles des insectes dorés, celles des criquets, celles des menthes religieuses et des insectes feuilles. Il connaît aussi toutes les plantes, celles qui sentent bon quand on froisse leurs feuilles entre les doigts, celles qui ont des racines pleines d'eau, celles qui ont le goût de l'anis, du poivre, de la menthe, du miel. Il connaît les graines qui craquent sous la dent, les baies minuscules qui teignent les doigts et les lèvres en bleu. Il connaît même les cachettes où on trouve de petits escargots en pierre ou de minuscules grains de sable en forme d'étoile. Il entraîne Lalla loin avec lui, par-delà les murs de pierres sèches, le long des sentiers qu'elle ne connaît pas, jusqu'aux collines d'où on voit le commencement du désert. Ses yeux brillent fort, la peau de son visage est sombre et luisante quand il arrive en haut des collines. Alors il montre à Lalla la direction du sud, là où il est né. Le Hartani n'est pas un garçon comme les autres. Personne ne sait d'où il vient réellement. Seulement, un jour, il y a déjà longtemps de cela, un homme est venu monter sur un chameau. Il était vêtu comme les guerriers du désert, avec un grand manteau bleu ciel et le visage voilé de bleu. Il s'est arrêté au puits pour abreuver son chameau et lui-même a bu longuement l'eau du puits. C'est Yasmina, la femme du chevrier, qui l'a vue quand elle allait chercher de l'eau. Elle s'est arrêtée pour laisser l'étranger boire à sa soif et quand il est reparti sur son chameau, elle a vu que l'homme avait laissé au bord du puits un tout petit enfant enveloppé dans un morceau de tissu bleu. Comme personne n'en voulait, c'est Yasmina qui a gardé l'enfant. Elle l'a élevé et il a grandi dans sa famille comme s'il était son fils. L'enfant était le Hartani. C'est le surnom qu'on lui a donné parce qu'il avait la peau noire comme les esclaves du Sud. Le Hartani a grandi à l'endroit même où le guerrier du désert l'a laissé, près des champs de pierres et des collines, là où commence le désert. C'est lui qui a gardé les chèvres de Yasmina. Il est devenu comme les autres garçons qui sont des bergers. Il sait s'occuper des bêtes, il sait les conduire où il veut, sans les frapper, rien qu'en sifflant entre ses doigts, car les bêtes n'ont pas peur de lui. Il sait parler aussi aux essaims d'abeilles, simplement en sifflotant entre ses dents, en les guidant avec ses mains. Les gens ont un peu peur du Hartani. Ils disent qu'il est Mejnoun, qu'il a des pouvoirs qui viennent des démons. Ils disent qu'il sait commander aux serpents et aux scorpions, qu'il peut les envoyer pour donner la mort aux bêtes des autres bergers. Mais Lalla ne croit pas cela. Elle n'a pas peur de lui. Peut-être qu'elle est la seule personne qu'il connaisse bien, parce qu'elle lui parle autrement qu'avec les mots. Elle le regarde et elle lit dans la lumière de ses yeux noirs. Et lui regarde au fond de ses yeux d'ambre. Il ne regarde pas seulement son visage, mais vraiment tout au fond de ses yeux. Et c'est comme cela qu'il comprend ce qu'elle veut lui dire. Amma n'aime pas beaucoup que Lalla aille voir si souvent le berger dans ses champs de pierre et dans ses collines. Elle lui dit que c'est un enfant trouvé, un étranger, qu'il n'est pas un garçon pour elle. Mais dès que Lalla finit son travail dans la maison d'Amma, elle court sur le chemin qui va vers la colline et elle siffle entre ses doigts comme les bergers. Et elle crie « Ohé, Hartani !» Elle reste là-haut avec lui, quelquefois jusqu'à la nuit tombante. Alors le jeune garçon rassemble ses bêtes pour les conduire au corral, en bas, près de la maison de Yasmina. Souvent, comme il ne parle pas, il reste immobile, assis sur les rochers devant les collines de pierre. C'est difficile de comprendre ce qu'ils font à ce moment-là. Peut-être qu'ils regardent devant eux, comme s'ils voyaient à travers les collines, jusque derrière l'horizon. Lalla ne comprend pas bien elle-même comment cela se fait, car le temps semble ne plus exister quand elle est assise à côté du Hartani. Les paroles circulent librement, vont vers le Hartani, reviennent vers elle, chargées d'un autre sens, comme dans les rêves où l'on est deux à la fois. C'est le Hartani qui lui a appris à rester ainsi, sans bouger, à regarder le ciel, les pierres, les arbustes, à regarder voler les guêpes et les mouches, à écouter le chant des insectes cachés, à sentir l'ombre des oiseaux de proie et les tressaillements des lièvres dans les broussailles. Le Hartani n'a pas vraiment de famille comme Lalla. Il ne sait pas lire ni écrire. Il ne connaît même pas les prières. Il ne sait pas parler. Et pourtant, c'est lui qui sait toutes ces choses. Lala aime son visage lisse, ses longues mains, ses yeux de métal sombre, son sourire. Elle aime sa façon de marcher. Vif et léger comme un lévrier, puis comme il sait bondir de roche en roche et disparaître en un clin d'œil dans une de ses cachettes. Il ne vient jamais à la ville. Peut-être qu'il a peur des autres garçons parce qu'il n'est pas comme eux. Quand il part, c'est vers le sud qu'il va, dans la direction du désert, là où passent les pistes des nomades montés sur leurs chameaux. Il s'en va plusieurs jours comme cela, sans qu'on sache où il est. Puis il revient un matin. Il reprend sa place dans le champ de pierre avec les chèvres et le bouc, comme s'il n'était parti que quelques instants. Quand elle est assise comme cela sur un rocher à côté du Hartani et qu'ils regardent ensemble l'étendue de pierre dans la lumière du soleil avec le vent qui souffle de temps en temps, avec les guêpes qui vrombissent au-dessus des petites plantes grises et le bruit des sabots des chèvres sur les cailloux qui s'éboulent, il n'y a besoin de... rien d'autre, vraiment. Lala sent la chaleur au fond d'elle, comme si toute la lumière du ciel et des pierres venait jusqu'au centre de son corps, grandissait. Le Hartani prend la main de Lala dans sa longue main brune aux doigts effilés. Il la serre si fort qu'elle en a presque mal. Lala sent dans la paume de sa main passer le courant de chaleur comme une drôle de vibration ténue. Elle n'a pas envie de parler. Ni de penser. Elle est si bien ainsi qu'elle pourrait rester tout le jour, jusqu'à ce que la nuit emplisse les ravins sans bouger. Elle regarde devant elle, elle voit chaque détail du paysage de pierre, chaque touffe d'herbe, elle entend chaque craquement, chaque cri d'insecte. Elle sent le mouvement lent de la respiration du berger, elle est si près de lui qu'elle voit avec ses yeux, qu'elle sent avec sa peau. Cela dure un bref instant, mais il semble si long qu'elle en oublie tout le reste, prise par le vertige. Puis, tout à coup, comme s'il avait peur de quelque chose, le jeune berger bondit sur ses pieds, abandonne la main de Lala. Sans même la regarder, il se met à courir vite comme un chien, bondissant par-dessus les rochers et les ravins asséchés. Il franchit les murs de pierre sèche, et Lala voit sa silhouette claire qui disparaît entre les buissons d'épines. Hartani, Hartani, reviens! Lala crie, debout sur le rocher, et sa voix tremble parce qu'elle sait que cela n'y fera rien. Le Hartani a disparu soudain, avalé par un de ses creux sombres dans la roche calcaire. Il ne se montrera plus aujourd'hui. Demain, peut-être, ou plus tard. Alors Lala descend la colline à son tour, lentement, d'une roche à l'autre, maladroitement, et elle se retourne de temps en temps pour essayer d'apercevoir le berger. Elle quitte les champs de pierre et les enclos de pierre sèche. Elle retourne vers le bas, vers le creux de la vallée, pas très loin de la mer, là où les hommes vivent dans les maisons de planches, de tôles et de papier goudronné.
Venons de vous lire un extrait de Désert de Jean-Marie Le Clézio avec les voix de Jocelyne et Ouria. Vous écoutez actuellement le pianiste breton Didier Skiban qui nous a accompagnés tout au long de la lecture. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles lectures.
Angers. Savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Tu traînes sur ce sentier louché, sinueux. Tu viens de loin. Tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors, écoute. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. De la vie à laquelle tu renonces pour me rejoindre.